Chapitre 44. Traqué. Perrine sauta de son lit et commença à s'habiller sans s'inquiéter que Zarine se rince l'œil ou non. Bien que sachant ce qu'il entendait faire, il demanda quand même à Moiraine.
« On fiche le camp ?»« C'est recommandé. »«
Sauf si tu veux faire plus ample connaissance avec Samael. »
Comme pour ponctuer cette phrase, le tonnerre gronda et un éclair déchira la nuit. Depuis son irruption, Aes Sedai avait à peine accordé un regard à Zarine. Alors qu'il finissait de fourrer le pan de sa chemise dans son pantalon, Perrine regretta soudain de ne pas porter sa veste et sa cape. Depuis que Moiraine avait nommé le rejeté, la température semblait avoir chuté dans la chambre.
« Comme si Baal-Zamon ne suffisait pas. Voilà que nous avons les rejetés sur le dos à présent. Trouver Rand peut-il encore changer les choses? N'est-il pas déjà trop tard ?»«
Samael !»
souffla Zarine.
Un des rejetés règne par la lumière.
Tu veux toujours nous accompagner ?
Demanda Moiraine.
Je ne te forcerai pas à rester ici dans les circonstances présentes. Mais je veux bien te donner une dernière chance d'aller voir ailleurs si j'y suis.
Voyant Zarine hésiter, Perrine se pétrifia, sa veste à moitié enfilée. À coup sûr, personne ne pouvait choisir d'accompagner des gens poursuivis par un des rejetés. Maintenant qu'elle connaissait les enjeux, la quêteuse devait renoncer.
Sauf si elle a une très bonne raison de nous suivre.
En toute logique, entendre dire qu'un des rejetés était libre aurait pu inciter une personne sensée à embarquer sur le premier bateau du peuple de la mer en partance pour l'autre côté du désert des Aiel. Que Zarine reste là à réfléchir était déjà incroyable.
« Non, »
dit Zarine, semblant être arrivée à une décision raisonnable. Perrine en fut soulagée, mais pas longtemps.
« Non, je n'irai pas ailleurs, voir si vous y êtes. » Que vous me conduisiez au corps de Valère ou non, aucun quêteur, même en trouvant l'artefact, ne pourra se vanter de participer à une histoire comme celle-là. Cette saga sera racontée jusqu'à la fin des temps, Aes Sedai, et j'en ferai partie.
Non !
Explosa Perrine.
Ce n'est pas une réponse suffisante. Que veux-tu ?
Je n'ai pas de temps à perdre en prise de bec,
dit Moiraine.
Le seigneur Brend risque d'apprendre à tout moment qu'un de ses chiens des ténèbres est mort. « Ne doutez pas un instant qu'il fera le rapprochement avec un champion et qu'il se lancera à la recherche de l'Aes Sedai de ce Gaïdine. Tu veux rester là à jacasser jusqu'à ce qu'il ait découvert qui tu es, Perrine ? Et toi, gamine ? Allons, filez tous les deux. Filez !»
Moiraine sortit et disparut dans le couloir avant que l'apprenti forgeron ait pu dire un mot. Zarine ne perdit pas de temps, détalant de la chambre sans même emporter sa bougie. Après avoir récupéré ses affaires, Perrine courut vers l'escalier de derrière en finissant de boucler son ceinturon d'armes. En chemin, il rattrapa Loyal, qui tentait de fourrer un livre relié de bois dans une de ses sacoches de sel, tout en mettant sa cape. Alors qu'il dévalait les marches, Perrine aida Logis avec le vêtement. Zarine rejoignit les deux amis juste avant qu'ils se précipitent dehors sous la pluie battante. Ne prenant pas le temps de relever sa capuche, Perrine rentra la tête dans les épaules et courut vers les écuries.
Elle doit avoir une autre raison. Figurer dans une fichue légende ne suffit pas, sauf si elle est folle alliée.
Ses boucles trempées mornement aplaties sur sa tête, l'apprenti forgeron entra en trombe dans les écuries. Moiraine était déjà là, vêtue d'une cape cirée qui ruisselait d'eau. Brandissant une lanterne, Nieda fournissait de la lumière à l'âne qui finissait de sceller les chevaux. Perrine remarqua une nouvelle monture, un hongre bai dont les imposants naseaux n'étaient pas sans rappeler le nez de Zarine.
« J'enverrai des pigeons tous les jours, »
dit l'aubergiste.
« Et personne ne me soupçonnera. Par la bonne fortune, même les capes blanches m'ont la bonne. »«
Écoute-moi bien, femme !»
cria Moiraine.
« Je ne parle pas d'un fils de la lumière ou d'un suppôt des ténèbres. Tu vas déguerpir de cette ville et emmener avec toi tous les gens qui te sont chers. Depuis plus de 10 ans, tu m'obéis. Alors continue !»
Nieda capitula à contre-cœur, s'attirant un soupir exaspéré de l'Aes Sedai.
Le hongre bai est pour toi, gamine,
dit l'âne à Zarine.
Monte en selle. Si tu ne sais pas chevaucher, il faudra apprendre sur le tas. Ou accepter ma proposition.
Zarine s'accrocha au pommeau et se hissa gracieusement sur le dos de sa monture.
Homme de pierre, maintenant que j'y pense, il me semble que j'ai déjà fait du cheval.
Elle se tourna souplement pour attacher son baluchon derrière elle.
« Que vouliez-vous dire, Moiraine ? »
demanda Perrine, alors qu'il jetait ses sacoches de sel sur le dos de Trotter.
« Vous avez dit qu'il découvrirait où j'étais, qu'il le saurait. Les hommes gris. »
Nieda ricana. Agacée, Perrine se demanda combien de choses elle connaissait, sans avoir aucun doute sur leur réalité, tout en faisant mine de ne pas y croire.
« Ce n'est pas Samael qui a envoyé les hommes gris, »
dit Moiraine en enfourchant Aldieb avec la sereine précision d'une cavalière émérite. Comme s'il n'y avait aucune raison de se presser.
« En revanche, le chien des ténèbres était à son service. Je crois qu'il suivait ma trace. Et Samael n'aurait pas envoyé le chien et les tueurs. Quelqu'un te traque, mais le seigneur Brand ignore sûrement jusqu'à ton existence. Pour le moment. »
Perrine s'immobilisa, le premier pied dans un étrier, et dévisagea la Aes Sedai, qui sembla plus soucieuse de flatter l'encolure d'Aldieb que de répondre aux questions muettes du jeune homme.
« Heureusement que j'ai pris l'initiative de partir à ta recherche, »
dit Lan. Moiraine eut un grognement courroucé.
« Si tu étais une femme, Gaïdine, je te renverrais à la Tour Blanche pour qu'on t'y apprenne à obéir. »
Lan fronça les sourcils et tapota la poignée de son épée. Puis il sauta en selle.
« Mais au fond, »
concéda Moiraine,
« l'indiscipline est une qualité, dans certaines circonstances. De toute façon, Sheriam et Siwan Sanche, en unissant leurs forces, ne réussiraient pas à te rendre plus docile.
« Je ne comprends pas, »
dit Perrine.
« Je n'arrête pas de répéter ça, et ça commence à me taper sur les nerfs. Je veux des réponses qui ne soient pas des énigmes insolubles. »
Il finit de se hisser en selle afin de ne pas concéder à Moiraine l'avantage de le regarder de haut. Après tout, elle avait déjà assez d'avantages sur lui comme ça.
« Si Samael n'a pas envoyé les hommes gris, qui l'a fait ? Si un Myrdral ou un autre rejeté ?»
Le jeune homme dut marquer une pause pour se remettre de ce qu'il venait de dire.
« Un autre rejeté, par la lumière. Si quelqu'un d'autre les a envoyés, pourquoi ne pas avoir prévenu Samael ? Ce sont tous des suppôts des ténèbres, non ? Et pourquoi moi, Moiraine ? C'est Rand, le maudit dragon réincarné, pas moi !»
Entendant Zarin et Nieda pousser un petit cri, Perrine mesura la portée de ce qu'il venait de dire. Moiraine le regardait comme si elle lui aimait l'écorcher vif.
« Ma fichue grande gueule ! Un jour, peut-être, je cesserai de parler avant d'avoir réfléchi. »
Zarin le regardait avec des yeux ronds comme des soucoupes, constata-t-il. Cette fois, il avait peut-être bien commis une gaffe irréparable.
« Tu es lié à nous, »
dit Moiraine à la quêteuse.
« Désormais, il ne te sera plus possible de revenir en arrière. »
Zarin semblait avoir envie de dire quelque chose, mais en ayant trop peur pour oser. L'Aes Sedai ne s'en aperçut pas, car elle s'intéressait déjà à autre chose.
« Nieda, quitte Ilian ce soir, et dans l'heure qui vient. Et tiens encore mieux ta langue qu'au cours de toutes ces années. Certaines personnes risqueraient de te la couper pour te réduire au silence, et je ne pourrais pas venir à ton secours. »
À son ton, l'Aes Sedai ne galégeait pas, et l'aubergiste fit signe qu'elle avait compris le message, qui n'avait rien de métaphorique quand il était question de lui couper la langue.
« Et toi, Perrine, écoute bien. »
La jument blanche approcha de Trotter, et le jeune homme, subjugué, se pencha vers Moiraine pour mieux entendre.
« Une infinité de fils composent la trame, et certains sont aussi noirs que les ténèbres elles-mêmes. Prends garde à ce que l'un d'eux ne t'étrangle pas. »
Moiraine talonna Aldieb, qui partit au galop sous la pluie. Mandarbe la suivit comme son ombre.
« Que la lumière te brûle, Moiraine !»
songea Perrine en se lançant à leur suite.
« Par moment, je me demande dans quel camp tu es. »
Le jeune homme regarda Zarin, qui chevauchait à ses côtés comme si elle était née en selle.
« Et toi, dans quel camp es-tu ? »
La pluie gardant les gens à l'intérieur, personne n'assista au départ des cavaliers. Mais les pavés glissants se révélèrent dangereux pour les chevaux. Quand la colonne atteignit la chaussée Marido, une large voie de terre battue qui traversait le marais en direction du nord, le gros de l'averse était terminé. Le tonnerre grondait toujours, mais loin derrière les cavaliers, peut-être même au-dessus de la mer. Perrine se dit que la chance était avec eux. La pluie avait duré assez longtemps pour dissimuler leur départ, et à présent, ils allaient bénéficier d'une nuit très claire pour chevaucher. Il exposa sa théorie à voix haute, mais Lan ne fut pas d'accord.
« Les chiens de ténèbres aiment les nuits de ce genre, forgeron. En revanche, la pluie et l'orage les découragent à partir à l'aventure. »
La pluie choisit bien entendu cet instant pour cesser de tomber. Derrière Perrine, Loyal marmonna des imprécations. La chaussée et le marais se volatilisèrent en même temps après environ une demi-lieue, mais la piste continua, obliquant simplement un peu vers l'est. La nuit était arrivée et une bruine tombait à présent, trop insignifiante pour décourager les chiens des ténèbres. Alors que les sabots des chevaux produisaient des bruits de succion dans la boue, l'âne et Moiraine imprimaient à la colonne un rythme soutenu. À la lumière de la lune qui filtrait entre les nuages, un paysage de basses collines chichement boisées se dessina tout autour des cavaliers. Perrine songea qu'il devait y avoir une forêt devant eux, et il ne fut pas certain d'apprécier cette perspective. Dans des bois, ils seraient moins visibles pour leurs poursuivants, certes, mais l'inverse était vrai aussi. Un hurlement retentit dans le lointain. Pensant qu'il s'agissait d'un loup, Perrine eut le réflexe de le contacter, et il s'en empêcha d'extrême justesse. Quand le cri se répéta, il sut que ce n'était pas un loup. D'autres hurlements lui répondirent, composant une chaîne sonore de mort et de désolation. À la grande surprise de Perrine, l'âne et Moiraine ralentirent pour sonder plus attentivement les alentours.
« Ils sont très loin, » dit Perrine. « Si nous ne nous arrêtons pas, je doute qu'ils nous rattrapent. »
« Les chiens des ténèbres ?»
souffla Zarine.
« Ce sont eux que nous entendons ?»« Aes Sedai, vous êtes sûr que ce n'est pas la horde sauvage ?»«
C'est bien elle, gamine. Oui, c'est bien elle. » »«
On ne distance jamais les chiens des ténèbres, forgeron, » dit l'âne. « Même avec les plus rapides destriers. Il faut les affronter et les vaincre. Ou périr. »«
J'aurais pu rester dans mon sanctuaire, vous savez. »
dit soudain Loyal.
Ma mère m'aurait trouvé une épouse à l'heure qu'il est. Mais ça ne serait pas une existence si désagréable que ça. Des livres à profusion. Je n'étais pas obligé d'aller à l'extérieur.
Là !
Lança Moiraine en désignant un tertre sans végétation sur la droite de la colonne. Il n'y avait guère d'arbres autour de cette butte, constata Perrine. Un secteur très dégagé.
Pour avoir une chance, nous devons les voir venir de loin.
Dit l'Aes Sedai. Les hurlements retentirent de nouveau, un peu moins lointains. Maintenant que Moiraine avait choisi le champ de bataille, l'âne fit accélérer le pas à Mandarbe. Durant la brève ascension, les sabots des chevaux firent résonner des pierres plates à demi enfouies dans la boue. À voir leur forme un peu trop géométrique, Perrine déduisit qu'il s'agissait de dalles, pas de simples pierres. Au sommet du tertre, les cavaliers mirent pied à terre autour de ce qui semblait être un rocher rond assez bas. À la lueur de la lune, l'apprenti forgeron s'avisa qu'il était devant un visage gravé dans le roc. Une femme, si on en jugeait par la longueur de ses cheveux. Avec la pluie, on aurait dit qu'elle pleurait. Sentinelle silencieuse, Moiraine se campa face à la plaine d'où viendraient les chiens des ténèbres. Loyal étudia la sculpture, puis passa un index sur ses contours.
« C'est une ogier, »
dit-il.
« Enfin, je crois. » Mais nous ne sommes pas dans un antique sanctuaire. Je l'aurais senti, et vous aussi, et nous y serions à l'abri des créatures des ténèbres.
« Qu'est-ce que vous regardez tous les deux ?»
demanda Zarine à Logier et à Perrine.
« C'est qui cette femme ? Que fait-elle ici ?»«
Depuis la dislocation du monde, »
dit Moiraine sans se retourner.
« Beaucoup de nations sont nées et sont mortes. Certaines n'ont rien laissé de plus qu'un nom sur un parchemin jauni, ou quelques traits sur une carte. » « Sommes-nous sûrs de faire aussi bien ?»
Les cris approchaient régulièrement. Calculant la vitesse des chiens des ténèbres, Perrine dut reconnaître que l'âne avait raison. Les chevaux n'auraient en aucun cas pu les semer. Et l'attente ne serait plus longue.
« Ogier, »
dit le champion.
« Tu t'occuperas des chevaux avec la fille. »
Zarine voulut protester, mais il fut plus rapide qu'elle.
« Tes couteaux ne serviront pas à grand-chose, petite. »
Il dégaina son épée.
« Même ma lame sera un pis-aller. Peut-être y avoir une dizaine de chiens. Vous devrez empêcher les chevaux de fuir lorsqu'ils les sentiront. Mandarbe lui-même déteste cette odeur. »
Si la lame du champion ne devait servir à rien, la hache ne serait pas utile non plus. Perrine en fut soulagée, même s'il allait affronter des créatures des ténèbres. Ne pas jouer de la hache était toujours ça de gagner. Il tira néanmoins son arc de sous la sangle de celle de Trotteur.
« Cette arme-là sera peut-être efficace. »«
Libre à toi d'essayer, forgeron, »
dit l'âne.
« Ces chiens ne crèvent pas facilement, mais qui sait, Tu en auras peut-être un. »
Perrine sortit une corde neuve de sa bourse et tenta de l'abriter de la pluie. La couche protectrice de cire d'abeille était fine et ne se révélait guère efficace contre une exposition prolongée à l'humidité. Plaçant l'arc entre ses jambes, le jeune homme le banda sans aucune difficulté, ce qui était déjà un exploit en soi. Lorsqu'il eut terminé, il releva la tête et vit les chiens des ténèbres. Plus rapides que des chevaux au galop, ils accélérèrent encore en sentant que leur proie était proche. Il y en avait bien 10, comme avait dit l'âne. Même s'il n'apercevait en fait que des ombres mouvantes dans l'obscurité, Perrine tira une flèche de son carquois et l'encocha. Mais il n'arma pas son arc. À Champ-des-Mondes, il était assez loin des meilleurs archers, mais parmi la jeune génération, seul Rand le dominait. « Il tirerait à 300 pas, décida-t-il.
« Triple buse, tu as du mal à atteindre une cible fixe à cette distance. Mais attendre n'est pas une solution, à la vitesse où il se déplace. »
Se campant à côté de Moiraine, le jeune homme arma son arc.
« Il suffit d'imaginer que cette ombre mobile est un gros chien. »
La flèche partit parfaitement droit et toucha sa cible. Mais il n'y eut aucun autre résultat qu'un jappement.
« Ça ne fonctionnera pas. Ils sont trop rapides. »
Perrine encocha une autre flèche.
« Pourquoi ne fais-tu rien, Moiraine ?»
Il voyait les yeux des chiens, brillants comme de l'argent poli, et leurs crocs aux reflets d'acier. Plus noirs que la nuit, de la taille d'un poney, les tueurs à 4 pattes fondaient sur Perrine, cherchant à le déchiqueter vivant. Une odeur de soufre brûlé planait dans l'air, et les chevaux s'affolaient, y compris le destrier de l'âne.
« Aes Sedai, fais quelque chose !»
Perrine tira de nouveau. Le premier chien sursauta et faillit tomber.
« Bon sang, ils peuvent crever !»
L'apprenti forgeron lâcha un troisième projectile, et cette fois, le monstre de tête s'écroula. Une belle victoire, mais qui ne servirait à rien. Pendant qu'il en tuait un, les 9 autres avaient couvert les 2/3 de la distance qu'il leur restait à parcourir, et ils semblaient courir de plus en plus vite à chaque seconde.
« Encore une flèche. Le temps pour une flèche, et ensuite ce sera quand même la hache. Sois maudite, Aes Sedai !»
Perrine tira encore.
« Maintenant !»
murmura Moiraine, alors que la flèche sifflait à ses oreilles. Un éclair jaillit de ses mains et fondit sur les chiens, illuminant la nuit. Fous de terreur, les chevaux hennirent et tentèrent de se libérer. Perrine leva une main à hauteur de ses yeux pour les protéger d'une lueur blanche aveuglante qui s'épanouit comme une fleur de feu. L'espace d'un instant, on se serait cru à midi au milieu de l'été. Puis l'obscurité revint et l'image de cette lance de feu resta un moment imprimée sur les rétines de Perrine. Des chiens, il ne restait plus rien, même pas des cendres.
« Je croyais qu'elle allait lancer un éclair ou invoquer la foudre. Mais ça, qu'est-ce que c'était ?»
croassa Perrine. Moiraine sondait la nuit en direction d'Iliane, comme si elle pouvait voir si loin.
« Il n'a peut-être pas vu, »
dit-elle, pensant tout haut.
« Avec la distance, s'il ne regardait pas avec attention, il n'a peut-être rien remarqué.
Qui ?»
demanda Zarine.
« Samael ? Il est à Iliane, avez-vous dit. Comment aurait-il pu voir ce qui est arrivé ici ? Et d'abord, qu'avez-vous fait ?»«
Un acte interdit, »
répondit Moiraine.
Proscrit par des vœux presque aussi puissants que les 3 serments.
Elle prit les rênes d'Aldieb à Zarine et entreprit de calmer la jument.
J'ai utilisé une force en sommeil depuis 2000 ans. Une connaissance qui risquerait à elle seule de me condamner à être calmée.
Si nous y allions, demanda Loyal. Il pourrait y en avoir d'autres.
J'en doute,
fit Moiraine en montant en selle.
Même s'il dispose de 2 meutes, il ne les aurait pas lâchées en même temps, de peur qu'elles s'entrégorgent au lieu de traquer leur proie. Et nous ne sommes pas son principal gibier. Sinon, il serait venu en personne. Nous sommes une épine dans son pied, rien de plus.
À l'évidence, elle n'aimait pas être tenue ainsi pour quantité négligeable.
Un bonus à fourrer dans sa gibecière, à condition de ne pas lui coûter trop d'efforts. Cela dit, nous aurions tort de ne pas nous tenir aussi loin que possible de lui.
« Rand ?»
demanda Perrine. Il devina que Zarine tendait l'oreille pour ne pas rater une miette du dialogue.
« Si nous ne sommes pas les proies, ce ne peut être que lui. »«
Possible. Ou Matt. N'oublie pas qu'il est à Vérène et qu'il a soufflé dans le corps de Valère. »
Zarine poussa un cri étranglé.
Il a soufflé dedans? Quelqu'un a déjà trouvé l'instrument?
Ignorant la quêteuse, Moiraine se pencha sur sa selle pour sonder le regard de Perrine.
Une fois encore, les événements m'ont dépassé. Je n'aime pas ça. Et tu ne devrais pas t'en réjouir non plus. Si je suis débordé, tu risques d'être emporté par la tourmente. Et le monde entier avec toi.
Nous sommes encore très loin de Théar, dit l'âne. La proposition de Logier est pleine de sagesse.
Après une brève réflexion, Moiraine talonna Aldieb. Elle était déjà au pied du tertre quand Perrine, après avoir débandé son arc, reprit les rênes de trotteur à Loyal.
Que la lumière te brûle, Moiraine. Je trouverai tôt ou tard les réponses qui me manquent.
Adossé à un tronc déraciné, Matt savourait la douce chaleur du feu de camp. Même si la pluie avait dérivé vers le sud 3 jours plus tôt, il se sentait encore humide jusque dans la moelle des os. Pourtant, à cet instant, il voyait à peine les flammes. En revanche, il observait attentivement le petit cylindre revêtu de cire qui reposait sur sa paume. Occupé à accorder sa harpe, Tom tempêtait contre le temps et n'accordait aucune attention à son compagnon de voyage. Dans les buissons, autour du camp, des criquets chantaient. Surpris par la nuit entre deux villages, les voyageurs avaient décidé de s'arrêter dans un bosquet à l'écart de la route. 2 soirs de suite, ils avaient tenté de louer une chambre, tout ça pour qu'un paysan leur envoie des fichus chiens aux trousses. Matt dégaina son couteau et hésita.
Une question de chance. Elle a bien dit que ça n'explosait pas à tous les coups.
Très prudemment, il pratiqua une incision tout au long du tube. Les fusées de feu d'artifice étaient de simples cylindres en papier. Et dans celle-ci, il n'y avait rien, sinon une poussière grisâtre, ou plutôt un mélange de poussière et de minuscules cailloux noirs. Les versant dans sa paume, Matt les remua du bout d'un index.
Comment des cailloux peuvent-ils exploser ?
Que la lumière me brûle !
Rugit Tom. Il rangea la harpe dans son étui, comme s'il entendait la protéger.
Tu veux nous tuer, mon garçon ? N'as-tu pas entendu dire que ces trucs-là explosaient aussi facilement au contact de l'air qu'à celui des flammes ? Les feux d'artifice ne sont pas loin d'être l'œuvre des Aes Sedai, gamin. Possible, mais Aludra ne m'a pas fait penser à une Aes Sedai. Enfant, je pensais que l'horloge de Maître Alvéré était l'œuvre des Aes Sedai. Mais après l'avoir ouverte, qu'ai-je découvert ? Tout un tas de pièces métalliques.
Ce souvenir le mettait encore aujourd'hui mal à l'aise. Maîtresse Alvéré l'avait surpris la première, la sage-dame, son père et le bourgmestre ne tardant pas à la rejoindre. Aucun des quatre n'avait cru qu'il s'agissait d'une expérience scientifique.
J'aurais pu la remonter, j'en suis sûr. Perrine serait capable d'en fabriquer une, si on lui montrait toutes ces petits trous, ces ressorts et ces machins bizarres.
Détrompe-toi, mon garçon,
dit Tom.
Même le plus médiocre horloger a les poches pleines, et c'est mérité. Mais les horloges ne sautent à la figure de personne. Ce truc-là non plus. Et maintenant, cette fusée ne sert plus à rien.
Nonchalant, Matt jeta le papier, les cailloux et la poussière dans le feu. Il y eut des étincelles et une fumée âcre s'éleva des flammes.
« Tu veux nous tuer, c'est certain !»
s'écria Tom, sa voix bizarrement haut perchée.
« S'il me prend l'envie de mourir, j'irai au palais quand nous serons à Kemlin et je passerai les fesses de Morgaz. »
Les bacchantes du trou vert frémirent d'indignation.
« Ne fais plus jamais ça !»«
Il ne s'est rien passé. »
dit Matt, perplexe. Il tendit une main derrière lui et prit dans le présentoir, rangé à l'abri du tronc, une fusée de la taille supérieure.
Je me demande pourquoi ça n'a pas fait boum.
Moi, je m'en contrefiche. Ne refais plus jamais ça.
Matt éclata de rire.
Arrête d'avoir des vapeurs, Tom. Il n'y a rien d'inquiétant. Maintenant, je sais ce qu'il y a à l'intérieur et... Non, non, pas de serment. Je ne recommencerai pas, c'est promis. Faire exploser ces trucs est bien plus amusant.
Je n'ai pas de vapeur, porcher abruti. En revanche, je tremble de rage à l'idée de voyager avec un crétin irresponsable qui finira par nous tuer parce qu'il...
Hola, près du feu !
Lança une voix. Matt et Tom se regardèrent, perplexes. Des chevaux approchaient, mais les voyageurs honnêtes, à cette heure, ne couraient pas les routes. Cela dit, les gardes de la reine sécurisaient la route si près de Kemlin, et les 4 cavaliers qui entrèrent dans le cercle lumineux du feu ne ressemblaient pas à des bandits de grand chemin. Il y avait une femme parmi eux, et les 3 hommes vêtus d'une longue cape paraissaient l'escorter. Portant une robe de soie bleue sous sa cape de velours à large capuche, la voyageuse aux yeux bleus se révéla très jolie. Ses chevaliers servants mirent pied à terre et l'aidèrent à faire de même. Tout en retirant ses gants, la belle inconnue approcha du feu.
« Nous avons été surpris par la nuit, jeune maître, »
dit-elle.
« Oserais-je te demander où nous pouvons trouver une auberge ?»
Matt sourit et se leva. Il était encore accroupi quand il entendit un des types murmurer quelque chose. Un autre sortit de sous sa cape une arbalète prête à tirer.
« Tue-le, idiot !»
cria la femme. Matt jeta la fusée dans le feu et bondit vers son bâton. Il y eut une explosion et un éclair aveuglant.
« Aïe, Sedai !»
cria un des trois brigands.
« Non, fusée, imbécile !»
lança la femme. Matt fit un roulé-boulé et se releva, son bâton brandi. Sifflant près de son flanc, le carreau d'arbalète vint se ficher dans le tronc à l'endroit où il était assis. Puis l'arbalétrier s'écroula, le manche d'un des couteaux de Tom dépassant de sa poitrine. Les deux autres hommes dégainèrent leur épée. L'un n'alla pas bien loin car il s'écroula, un couteau planté entre les omoplates. Sans avoir vu que son compagnon lui faisait défaut, le bandit survivant attaqua Matt comme s'il voulait créer une ouverture pour son complice. Avec un mépris souverain, le jeune homme frappa l'imbécile au poignet, le désarmant, puis lui fit exploser le crâne d'un second coup de bâton. Du travail vite et bien fait. Voyant la femme approcher de lui, Matt brandit vers elle un index menaçant.
« Tu es bien habillé pour une voleuse. Assieds-toi en attendant que j'ai statué sur ton sort. »
Aussi surpris que la malheureuse, Matt vit soudain la pointe d'une lame traverser la gorge de l'inconnue. Tenté de bondir vers elle pour la rattraper, Matt se ravisa, conscient qu'il ne pouvait plus l'aider. Elle s'effondra, sa longue cape lui faisant comme un linceul qui ne laissa visible que son visage et le couteau du trouvert.
« Que la lumière te brûle !»
s'écria Matt.
« Sois maudite, Tom Marilyn ! Une femme ! Nous aurions pu la ligoter et la livrer aux gardes de la reine demain. Bon sang ! Je l'aurais peut-être laissé filer. Sans ses complices, elle n'aurait détroussé personne. Et le seul qui vit encore aura mal à la tête pendant des semaines. Et il lui faudra sûrement des mois avant de pouvoir tenir une épée. Tom, il n'y avait aucune raison de la tuer. »
Le trouvert boitilla jusqu'à la femme et écarta sa cape du bout d'un pied. Une dague gisait à quelques pouces de sa main, la lame assez large et longue pour faire à Matt une boutonnière dont il ne se serait pas remis.
« Tu aurais préféré que je la laisse t'embrocher, gamin ?»
Tom récupéra son couteau et l'essuya sur la cape de la morte. S'avisant qu'il sifflotait, elle portait un masque qui cachait son visage, Matt se força à cesser. Se penchant, il recouvrit la tête de la défunte avec la cape.
« On devrait filer. Si une patrouille arrive, je n'ai pas envie de devoir m'expliquer. »«
Avec une voleuse habillée comme ça, il vaudrait mieux éviter, oui. » Ils doivent avoir détroussé la femme d'un marchand ou une noble dame en voyage.
Le trouvert adopta un ton plus compatissant.
Si on doit partir, mon garçon, tu devrais t'occuper de sceller ton cheval.
Matt sursauta et détourna le regard de la morte.
Oui, ce serait judicieux, pas vrai?
Il ne tourna plus la tête vers le cadavre. Les hommes ne lui faisaient pas cet effet. Selon lui, quand on décidait de voler et de tuer, on méritait un retour de bâton quand on échouait. S'il évita de contempler les morts, il ne frémit jamais lorsque son regard se posait sur eux par hasard. Quand il eut fini de sceller sa monture, alors qu'il étouffait le feu avec de la poussière, le jeune homme eut l'idée d'examiner de plus près l'arbalétrier. Son visage lui parut vaguement familier, comme si...
« La chance. Toujours la chance. Ce type était un bon nageur, Tom. »
dit-il en montant en selle.
« Que me bailles-tu là ?»
Lui aussi en selle, le trouvert cherchait la meilleure position pour les études de ses instruments, et il se fichait comme d'une guigne des cadavres.
« Comment sais-tu qu'il savait nager, pour commencer ?»«
Il a réussi à gagner la rive alors qu'il était tombé au milieu du fleuve, en pleine nuit. J'ai peur que ça ait consommé d'un coup toute sa chance. »
Le jeune homme vérifia une nouvelle fois la fermeture du présentoir à fusée.
« Si l'explosion d'un seul de ces trucs l'a fait crier « Aïe, Sedai !» je me demande ce qu'aurait pensé cet idiot si toutes les fusées avaient sauté en même temps.
« Tu es sûr, mon garçon ?» Les chances que ce soit le même homme, eh bien, même moi je ne prendrais pas le pari contre une telle cote.
J'en suis certain, Tom. Elaine, quand je te reverrai, je te tordrai le cou. Et à vous deux aussi, Egwene et Ninevé. Et j'ai la ferme intention de m'être débarrassé de cette maudite lettre une heure après notre arrivée à Kemlin.
Mon garçon, il n'y a rien dedans, je te l'ai dit. Je jouais au Dice Daimar avant d'avoir ton âge, et je sais reconnaître un code, même si je ne parviens pas à le déchiffrer. Moi, je n'ai jamais pratiqué ton grand jeu, Tom, mais quand on me traque, je m'en aperçois. Ces gens n'en veulent pas à mon or, tu peux me croire. Pour leur faire courir tant de risques, il faudrait un coffre plein à ras-bord. C'est la lettre. J'en mettrai ma tête à couper. Les jolies filles m'attirent toujours des ennuis. Après ce carnage, tu aurais le cœur de dormir ? À point fermé, gamin, comme un nouveau-né. Mais si tu veux filer, je suis ton homme.
L'image de l'inconnu, un couteau dans la gorge, passa devant l'œil mental de Matt.
Toi, tu n'as pas eu de chance, ma belle. Alors, en route, mon ami !